Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch.
Minorité créative, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Peut-être que toi, quand tu entends ça, tu es un peu comme moi, tu dis « Ok, on va parler peut-être des artistes, des personnes qui sont créatives, des personnes qui ont de l'imagination, des personnes qui font de la peinture, ce genre de choses. » Et en fait, on a appris pendant cette série « Minorité créative » qu'en fait, on parlait pas du tout de ça. On parle de nous, les chrétiens. Je sais pas si tu sais en fait, mais aujourd'hui, les chrétiens, on est, les chrétiens en tout cas, protestants, évangéliques, on est en infériorité, on est en minorité dans la société actuelle. On avait pu voir ça avec différentes prédications, Jonas en avait parlé plus particulièrement. Et en fait, la minorité créative, c'est nous, les chrétiens, qui sommes en minorité, qui impactons le monde en fait dans lequel on est. Si jamais tu es intrigué par ce que c'est la minorité créative, que tu as envie d'aller un peu plus loin après avoir écouté ma prédication, puis que tu n'as pas eu l'occasion d'écouter toute la série en entière, je t'invite à aller soit sur Spotify, soit sur une application de podcast pour réécouter les prédications parce qu'elles sont en ligne. Et je t'assure, ça en vaut la peine. C'était vraiment une très très bonne série. Du coup, moi, j'ai l'honneur, j'ai le privilège de conclure cette série de minorité créative. Et je vais parler d'une minorité créative qui s'engage dans la société. Une minorité créative qui s'engage dans la société, c'est une minorité créative, qui influence cette société. On avait pu le voir la semaine passée où Yves, notre pasteur, avait parlé de ça. Et je crois fondamentalement qu'il faut qu'on aille plus loin. Il ne faut pas qu'on se dise juste « Ok, on doit influencer la société, c'est cool et tout ça », mais pour ça, il faut s'engager dans la société. Et j'ai envie de parler de ça. Alors la question à s'engager de la société, enfin comment est-ce que ça se passe? Justement, c'est comment on fait du coup? Comment on fait pour s'engager dans la société? Et pour ça, je vais me baser sur un passage dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 5, les versets 17 à 21, où il nous est dit la chose suivante. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même et ne chargeait pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Une minorité créative qui s'engage dans la société. Quelques mots de contexte avant d'aller plus loin dans cette prédication. Tout d'abord, ce passage qu'on vient de lire, je ne sais pas à quel point tu es connecté avec l'histoire de l'Église, est-ce que tu as déjà été à l'Église d'ailleurs, est-ce que tu es chrétien, pas chrétien. Si jamais cette histoire se passe dans un livre qui s'appelle la Bible et dans ce que moi j'appelle la seconde mi-temps d'un match de foot, mais qui se trouve dans la Bible. En gros, la Bible, il y a deux parties distinctes, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence du moment où Jésus est arrivé sur terre et ce passage se trouve dans le Nouveau Testament. On raconte en fait une histoire qui s'est passée après le ministère de Jésus, après les 3 ans où Jésus a œuvré sur terre. Et c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe, qui écrit une lettre à l'église de Corinthe. Et je vais reformuler les versets que je viens de lire en quelques mots. Pour être très très bref, en gros, tu as rencontré Dieu. Du moment où tu as rencontré Dieu, tu es devenu un nouvel être, une nouvelle personne, Dieu t'a transformé. Et parce que tu as été transformé, parce que tu as vécu une rencontre avec Dieu, il te demande d'être son ambassadeur. Et au-delà de « il te demande de l'être », en fait, tu es son ambassadeur ici sur la terre. Et en tant qu'ambassadeur, on a une mission, réconcilier le monde avec Dieu, refléter l'amour de Dieu et transmettre cette bonne nouvelle au monde qui nous entoure. Et on va parler un petit peu de ça en 3 points. Le premier point, je l'ai appelé « des ambassadeurs dans la société ». Pour ce passage, je me base essentiellement sur les versets 20 et 21 du passage que j'ai lu tout à l'heure, et je vais vous les relire, comme ça on les a bien en tête. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ok, on parle ici d'ambassadeur. Je pense que si je demande à n'importe qui, pour toi c'est quoi un ambassadeur, tout le monde aurait une définition plus ou moins juste, plus ou moins claire de ce mot, être un ambassadeur. Mais pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, je vais moi donner une définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire, tout simplement du Larousse, qui nous dit qu'un ambassadeur, c'est un représentant ou une représentante personnelle du chef de l'État pour un temps limité ou une mission donnée dans plusieurs pays. Quand on entend ça, cette définition d'ambassadeur, et on se rend compte aussi que dans la Bible, c'est vraiment ça qui est en train d'être dit. On est les ambassadeurs d'un État qui nous est supérieur à nous, en fait, du royaume de Dieu lui-même. On est ses ambassadeurs sur terre. Quand on entend ce passage-là, quand on entend ces mots, il y a quelque chose qui doit nous frapper, en fait, dans notre esprit. On est les ambassadeurs de Dieu. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est quelque chose d'hyper grand. On représente personnellement le chef de l'État, le chef du monde. On représente personnellement Dieu. Et en fait, en étudiant ce passage, je me suis rendu compte que ça veut dire, quand on est avec nos amis pas chrétiens, famille pas chrétienne, dans la rue, n'importe quoi, mais qu'on est avec des personnes qui ne croient pas en Dieu, c'est-à-dire en fait qu'ils vont définir l'identité de Dieu, qui est Dieu, selon nous, l'ambassadeur de Dieu. Et je ne sais pas si on se rend compte vraiment en fait de la confiance de Dieu, la confiance que Dieu nous donne à nous, des êtres imparfaits, qui sont remplis de défauts, moi le premier vraiment, les autres personnes autour de nous vont définir l'identité de Dieu selon nous, ses ambassadeurs. C'est nous qui sommes appelés à refléter Dieu. Et je sais pas, moi en fait, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit du coup, mais c'est-à-dire que, en fait, la responsabilité est incroyable. Et on pourrait se dire, purée, mais il y a une pression monumentale qui arrive sur nos épaules et tout ça. Et en fait, c'est, oui, il y a une pression. Et c'est pour ça qu'on doit parler de ça ce matin. C'est pour ça qu'on doit parler de ce que c'est qu'un ambassadeur et s'engager dans la société. Parce qu'il y a un enjeu, en fait. Il y a un enjeu dans le fait d'être ambassadeur. On se rend compte aussi, en étudiant le passage, qu'en fait, on n'a pas trop le choix, si je peux dire ça comme ça. Je mets des guillemets, mais du moment où tu crois en Dieu, c'est comme si tu t'acceptais, en fait, ce ministère-là, cet acte, cette responsabilité de le refléter. Mais je sens très bien, même si on n'est pas là tous ensemble en live, je sens très bien que ce n'est pas très clair pour vous. Du coup, je vais vous partager un petit témoignage ou une petite illustration pour vous aider. Et pour ça, je vais prendre quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est très bizarre, j'ai l'impression de faire une vidéo pour YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la protection civile. D'ailleurs, je vais le mettre. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, beaucoup trop grand pour moi, là. Normalement, on a des habits en dessous pour que ça ait plus d'ampleur. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, est-ce que ça va le faire avec le micro ? Pour ceux qui ne savent pas, du coup, je fais partie de la protection civile vaudoise. La protection civile, en quelques mots, c'est tous ceux qui ont été inaptes à l'armée, qui ne peuvent pas faire ni l'armée, ni le service civil. On fait la protection civile, en gros. Je vais peut-être en fait enlever ça, ça me gêne plus qu'autre chose. Mais comme ça, vous avez pu me voir avec la veste. On va la mettre juste là, ça va le faire. La protection civile, du coup, on aide la population, on aide les gendarmes, les ambulanciers, on aide aussi à la circulation. S'il y a une catastrophe naturelle, on est sur place. Si, par exemple, le monde entier, ou bien même juste le canton de Vaud, est touché par une pandémie, je ne sais pas si ça pourrait arriver un jour, mais en fait, on est les premiers mobilisés pour servir les hôpitaux, les policiers, dans tous ces cas d'urgence. Et du coup, moi, je fais partie de la protection civile. Et il y a quelques années, j'ai commencé il y a à peu près 3 ans, et on commence par 2 semaines intensives qu'on appelle la formation de base. Et on apprend, c'est tout bête, tout est dit dans le nom, on apprend en fait les bases de ce que c'est qu'être un soldat de la protection civile, parce que oui, on est considéré comme des soldats. Et du coup, pendant ces 2 semaines, on apprend à faire position latérale de sécurité, à faire tous ces gestes quand on est dans un parking pour la circulation. Et aussi, il y a une phrase qu'on nous disait quasiment tous les jours qui m'a beaucoup marqué. Nos responsables nous disaient « Lorsque t'enfiles cette veste, lorsque t'enfiles l'uniforme de la protection civile, tu vas définir ce que c'est la protection civile là où tu vas. » En mettant ça, en fait, tu n'es plus juste simplement Raphaël Bossel. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, je m'appelle Raphaël Bossel, content que vous m'écoutiez. Mais tu n'es plus juste Raphaël Bossel, ou en tout cas, aux yeux des gens qui t'entourent, tu n'es pas Raphaël Bossel. Tu es un soldat de la protection civile et une responsabilité qui vient avec. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Par exemple, on imagine, on est mobilisé avec un groupe de 5-6 personnes, on est mobilisé, on travaille, le soir on se dit, hey, si on allait se boire une petite bière comme ça pour décompresser, que tu restes avec ton uniforme, tu vas boire une bière, puis qu'en fait tu as dépassé le seuil des 0,5, tu te fais choper par la police. Bon, en fait, à ce moment-là, déjà de 1, c'est illégal, donc c'est pas bien, et de 2, en fait, aux yeux du gendarme, aux yeux de la police, c'est pas toi qui es arrêté. C'est d'abord un soldat de la protection civile qui n'a pas respecté le code de la route. C'est lui qui a commis une infraction. Un autre exemple, tu es dans la rue, tu avances comme ça, tu es dans la rue, tout se passe bien, et tu as l'uniforme de la protection civile, et je ne sais pas pourquoi tu dis genre, ça va être super drôle d'insulter quelqu'un dans la rue. Mais en fait, aux yeux de cette personne, aux yeux des personnes qui vont t'entendre, ce n'est pas toi qui l'insulte, c'est la protection civile qui l'insulte. Dernier exemple, il y a quelqu'un, une femme enceinte, avec 1, 2, 3 enfants qui tombent ou qui fait tomber, je sais pas, ses courses ou qui font tomber un sac, n'importe quoi. Si tu passes à côté, que tu la regardes et que tu continues juste ton chemin sans l'aider, c'est pas toi qui ne l'as pas aidé. C'est la protection civile qui ne l'a pas aidé. Et ça, c'est quelque chose pendant nos 2 semaines de formation de base qu'on nous a vraiment dit, lorsque vous portez cet uniforme, vous êtes nos ambassadeurs en fait. Un peu comme ce que Paul nous dit, ce que Jésus en fait incarnait sur la terre. On est ses ambassadeurs. Et je ne sais pas si on réalise en fait, les gens autour de nous vont définir qui est Dieu selon nous. C'est comme si on portait l'uniforme de la protection civile. Petit témoignage du coup en lien avec la protection civile pour illustrer tout ce que je viens de dire. J'ai été pendant le confinement en mars, de mars à mai, de mars-avril plutôt, j'ai été mobilisé par la protection civile pendant 3-4 semaines à peu près dans un EMS. Et on était 2 soldats de la protection civile, en gros, à aller aider dans la cuisine et surtout faire aide-cuisine. Donc, c'est tout ce qui est plonge, vaisselle, couper des légumes, peler des patates, des trucs comme ça, faire même le ménage de la cuisine de temps en temps. Donc, ce n'était pas le job le plus glorieux. Et au début, avec mon camarade, on était vraiment démotivés. On se disait, purée, mais le sacrifice qu'on doit faire, c'est pas cool. On aimerait faire autre chose. Et puis, on n'aime juste pas ça, en fait, faire la vaisselle. Donc, on était vraiment de mauvaise humeur. Et après le premier jour, on a vu en fait la réalité de ce qui se passait dans ce TMS. Tous les cuisiniers qui charbonnaient, qui étaient fatigués, pour eux, ça faisait déjà quelques semaines qu'ils étaient dans une nouvelle configuration. Et on les voyait vraiment tous au bout en fait. Juste au bout, ils étaient fatigués. Et on a appris aussi qu'il y en a beaucoup qui faisaient beaucoup d'heures supplémentaires parce que d'autres avaient été touchés par le Covid ou étaient à risque. Et c'était vraiment la pagaille. Et du coup, en fait, on s'est dit après 1 ou 2 jours, on va changer notre attitude. On va montrer un bon témoignage, on va être là, on va essayer de motiver les gens, en fait. On va dire bonjour à tout le monde avec un grand sourire, on va demander si on peut plus aider de ce qu'on fait déjà. On va dire si on faisait que la vaisselle pendant 8 heures, est-ce que ça aiderait ? Si ça aide pas, est-ce qu'on peut faire autre chose ? Et vraiment, on a décidé de changer totalement d'attitude. Et les gens, en fait, on l'a remarqué. Et après, tous les 2-3 jours, ils nous disaient toujours « Ah, merci, ça nous fait trop du bien, ça nous motive. » C'est juste, en fait, ça fait du bien, en fait, de voir des gens. Pour eux, on était des bénévoles, en fait, mais ils nous disaient « C'est bon de voir des bénévoles qui n'ont rien à voir avec tout ça, de nous donner un coup de main, ça nous remotive. » C'est quoi aujourd'hui ? Je suis sûr de 2 choses. Premièrement, je suis sûr qu'ils ne se souviennent pas de moi. Raphaël Bossel, 24 ans, étudiant en théologie, qui est engagé à l'église de Homme-Lausanne, je suis sûr même s'ils voyaient mon visage maintenant, je pense qu'ils ne se souviendraient pas du tout de moi. Mais je suis sûr d'un deuxième élément. Les gens là-bas, je suis sûr, se souviennent de 2 personnes de la protection civile avec l'uniforme que j'ai mis avant. Ils se souviennent que 2 personnes sont venues dans une attitude motivante, qui étaient motivées à agir, à aider, à être solidaires. Et ça les a marqués. Ils se souviennent de 2 personnes de la protection civile. Et je suis sûr qu'ils sont reconnaissants aujourd'hui. Je le sais parce qu'ils nous l'ont dit. Et je pense que c'est pareil avec le royaume de Dieu. Les gens peut-être ne savent pas exactement qui on est, le pourquoi, du comment, mais on est les ambassadeurs de Dieu, on est les ambassadeurs du royaume de Dieu et on marque les gens qui sont autour de nous. Et par rapport à ça, pendant très longtemps, j'ai cru malheureusement qu'être ambassadeur du royaume de Dieu, c'était aider mon église locale. Faire la projection, aider le groupe de jeunes, l'accueil, des trucs comme ça. Et en fait, je crois que Un ambassadeur, il doit être dans un endroit où, entre guillemets, il doit être dans un endroit où Dieu n'est pas. Il doit être dans un endroit où il n'y a pas Dieu, où il n'y a pas de chrétien, si je dis plutôt comme ça. Il n'y a pas de chrétien. Tu montres un autre témoignage, tu reflètes les valeurs de Dieu. Et ça ne peut pas être dans ton église locale. Alors je dis oui à tous ceux qui donnent un coup de main, qui croient que c'est important, qui donnent de l'énergie, qui en font une priorité. Et vraiment, c'est trop beau, merci. Mais je ne crois pas qu'être ambassadeur du royaume de Dieu, ça veut dire servir son église. Je vais imaginer ça avec... Je vais vous partager un verset qui se trouve dans Matthieu 28, au verset 19, qui nous dit la chose suivante. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Si je parle de ce verset, c'est parce que je crois qu'il parle de ça en fait. S'engager là où Dieu n'est pas. Souvent, ce verset, on peut l'entendre à juste titre, comme quoi c'est un peu le slogan de l'évangélisation dans le monde. Allons dans toutes les nations, allons dans tous les pays, soyons missionnaires, soyons des missionnaires, soyons des évangélistes. Et je crois que c'est vrai, mais je crois que ce verset dit aussi autre chose. Faites de toutes les nations des disciples. Engagez-vous dans toutes les sphères de votre société. S'il y a des gens qui sont dans l'éducation, trop bien, brillez dans cet endroit-là, brillez dans ce domaine-là, parce que l'Église n'y est pas. S'il y a des gens qui sont dans le domaine du sport, trop bien, l'Église ne peut pas être là. Mais toi, tu peux faire une différence. Et des gens qui sont étudiants, trop bien, on a besoin de vous. On a besoin de vous en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu pour briller dans le domaine des études. Et on peut dire ça avec tout ce qui fait qu'une société est une société. Mais en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu, on doit être là où il n'y a pas de chrétiens, où il n'y a pas de structure chrétienne, où il n'y a pas d'ONG chrétienne, où il n'y a pas d'église. Parce qu'en fait, l'Église avec un grand E, c'est nous. Être des ambassadeurs du royaume de Dieu. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, je l'ai appelé le ministère de la réconciliation. Et pour ça, je me base surtout sur les versets 18 à 19, où on parle en fait du ministère de la réconciliation. Il y dit la chose suivante. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Là aussi, je vais donner la définition de ce que c'est une réconciliation. Je pense que si je demande à tout le monde, encore une fois, tout le monde saura me dire à peu près ce que c'est. Mais pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, j'ai repris une définition qu'on trouve dans le dictionnaire du Larousse. Il est dit... que la réconciliation, c'est ramener des personnes à la bonne entente, rétablir entre elles des relations amicales. On a le ministère de la réconciliation, on est porteur du ministère de la réconciliation, ça veut dire qu'on doit réconcilier le monde qui ne connaissent pas encore Jésus, avec Dieu lui-même. Et Dieu nous charge de ça en tant que ses ambassadeurs. Et là encore, c'est une énorme responsabilité. Et tu sais, quand j'entends ça, moi, je repense à tous mes amis, pas chrétiens, que j'ai eu à l'école, gymnase, au sport, dans mon entourage, qui était profondément en colère contre Dieu. J'ai eu une personne dans mon entourage quand j'étais au gymnase, donc ça commence à dater un petit peu, mais une personne, c'était une de mes meilleures amies. Vraiment, on s'entendait super bien, on se faisait plein de blagues ensemble, on se voyait après les cours, et vraiment, c'était une super amie. Mais c'était aussi la personne qui m'a le plus challengé dans ma foi, parce qu'elle était profondément en colère contre Dieu. Elle croyait en Dieu, mais pas que Dieu nous aimait, pas que c'était un Dieu d'amour, pas que c'était un Dieu de justice. Pour elle, en fait, Dieu, c'était l'incarnation du mal, presque, en fait. Et vraiment, on a eu plein de débats autour de ça, et elle m'a posé des questions vraiment folles qui... Je ne sais pas si tu as une personne comme ça dans ton entourage, mais qui remet, en fait, ta foi en question, presque. Elle me disait, par exemple, « Ouais, Raph, j'ai une question. Si Dieu est amour, pourquoi la souffrance dans le monde ? Ouais, Raph, si Dieu est amour, comme tu le dis, pourquoi il a créé le mal ? Raph, on est d'accord que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et mais du coup, Dieu a envoyé son propre Fils mourir, en plus en souffrant quand même pas trop mal. Et ça, c'est un Dieu d'amour pour toi. Raph, je comprends pas pourquoi mon grand-père, il n'a pas été guéri du cancer. Et pourquoi il est décédé du cancer? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait ton Dieu à ce moment-là? Moi, j'étais genre là, yeah, trop bien, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée, tu sais quoi? Tes questions me challenge. Mais Dieu, Avec tout ça, il nous dit, vous êtes le ministère de la réconciliation. Vous devez réconcilier les personnes qui sont en colère, qui ne connaissent pas encore Dieu, qui ne le connaissent pas encore, avec lui-même. Et tu sais, moi, je me dis, mais c'est impossible. C'est quoi cette blague, en fait? Parce que toutes les questions que mon ami se posait, c'est légitime. Et je lui ai dit ça plusieurs fois. C'est logique, en fait. C'est logique que tu te poses ces questions-là. Même moi, qui suis chrétien, je n'ai pas de réponse, je me pose ces questions-là. Alors toi, qui ne crois pas en Dieu, ou qui ne crois pas en tout cas que Dieu est amour, évidemment que tu te poses ces questions. Évidemment que c'est incompréhensible pour toi. Et j'ai même envie de dire, c'est logique, tu n'as pas envie de te réconcilier avec Dieu. Si pour toi, Dieu, c'est quelqu'un qui ne guérit pas, c'est quelqu'un qui est profondément injuste, c'est quelqu'un qui aime que les chrétiens, pas ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est quelqu'un qui est profondément rempli de haine, bah, tu sais quoi, c'est normal que tu ne veuilles pas te réconcilier avec lui. Et j'ai envie de dire, moi non plus, je n'aurais pas envie de me réconcilier avec un, entre guillemets, Dieu comme ça. Mais tu sais quoi, ta définition de qui est Dieu, ce n'est pas la définition du Dieu que je connais. Et ce n'est pas le Dieu que je sers aussi jour après jour. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Dieu n'est pas quelqu'un de haineux, Dieu n'est pas quelqu'un qui est rempli de colère ou quoi que ce soit. Et pour le ministère de la réconciliation, je pense qu'il faut deux points, en fait. Que nous, comment on peut dire ça? Il faut qu'on réalise deux choses. Premièrement, redéfinir l'identité de Dieu. Comme j'ai pu le dire pour mon ami, l'identité de Dieu, c'était quelqu'un qui n'aime pas, rempli de haine, en colère, etc., etc. Mais toi et moi, on sait que Dieu, ce n'est pas son identité. Toi et moi, si tu es disciple de Jésus, si tu crois en Jésus, tu sais qu'en fait, tout ça, c'est des mensonges. Et peut-être que comme moi, tu n'as pas de réponse à ces questions. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le mal? J'ai strictement aucune idée. Mais je sais que si... Je ne sais pas s'il a créé le mal ou pas, mais en tout cas, je sais que Dieu, il a créé l'amour. Je sais que Dieu, il a créé le bonheur. Je sais que Dieu, il est source de toute joie. Pourquoi est-ce qu'il y a la souffrance? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que Dieu a créé la souffrance? Je ne sais pas. Mais Dieu a créé la grâce aussi. Ça, je suis sûr. Et ça, je suis sûr que ça vient de lui. Pourquoi est-ce que Dieu, il n'a pas guéri mon grand-père? J'ai aucune idée et je suis désolé, vraiment. Mais je sais que Dieu, c'est celui qui guérit aussi. Et c'est super facile à dire ça, mais je crois que dans un premier temps, pour œuvrer dans le ministère de la réconciliation comme Dieu nous demande, il faut d'abord redéfinir dans notre cœur qui est Dieu. Non, Dieu n'est pas un Dieu en colère, Dieu n'est pas un Dieu qui nous déteste, Dieu n'est pas quelqu'un qui préfère les chrétiens ou nos chrétiens, Dieu aime tout le monde. Redéfinir qui est Dieu pour toi. Et lorsque tu as le ministère de la réconciliation, puis que tu veux propager ça, j'ai envie de te dire cette phrase. Tes actions vont plus parler que tes propres mots. Je reviens à ce que j'ai dit par rapport à être ambassadeur, mais si tu veux que les gens connaissent le Dieu que toi tu connais, celui qui est amour, il faut que toi tu commences à le refléter. Si Dieu est amour, toi tu dois être amour, avec tout le monde, avec un amour inconditionnel. Je vais reprendre l'exemple de la protection civile que j'ai dit avant. Si on avait dit à tout le monde... à tous ceux, à tous les cuisiniers et tout, ouais, vous savez quoi, on veut être motivant, on veut vous aider, mais qu'en fait, à chaque pause, on partait, quand c'était l'heure de juste s'en aller, on n'était déjà plus là, si à chaque fois on arrivait en cuisine en faisant encore 2 heures et tout, ben, je pense qu'ils n'auraient pas du tout été motivés. Mais parce qu'on a été peut-être cohérent entre ce qu'on a dit et ce qu'on a fait, ça a fait une différence. Et les gens se sont dit, ces gars-là, c'est des membres de la protection civile et c'est des moteurs. Il nous motive et ça a pu influencer. Tes actes parlent plus que tes mots. On arrive au deuxième point du ministère de la réconciliation. Le premier point, du coup, c'était redéfinir l'identité de Dieu pour pouvoir réconcilier. C'est bien de savoir, en fait, avec qui on réconcilie Dieu, tout simplement. Et deuxième point, pour réconcilier, ça commence par respecter l'autre. Et pour respecter l'autre, ça commence par l'écouter. Je crois qu'en tant qu'Église, on a besoin d'apprendre à écouter l'autre. Quand je dis l'autre, je parle des personnes qui ne croient pas en Dieu, des personnes qui sont en désaccord avec nous, des personnes qui peut-être croient en Dieu, mais qui n'ont peut-être pas la même théologie que nous. Ok, on imagine un couple, parce que tout le monde sait que dans un couple, normalement, il n'y a pas de dispute. C'est une blague, si jamais. On imagine un couple avec Marie et Titouan. S'il y a des Marie et des Titouan qui nous regardent, je suis désolé, hein, c'est des noms fictifs. On imagine que Marie a été profondément blessée par ce que Titouan a pu dire ou a pu faire. On imagine qu'il y a un conflit dans le couple. Marie, elle prend son courage à deux mains, elle va dire à son cher Titouan, bah, « Tu sais quoi, ce que tu m'as dit à ce moment-là, ça m'a blessé, ça m'a pas plu. » Si Titouan, à ce moment-là, il dit, « Ouais, non, mais tu comprends pas, quand j'ai fait cette blague, en fait, c'était du second degré, et puis ce que tu devais comprendre entre les lignes de mes phrases, c'était à quel point je t'aime, à quel point t'es merveilleuse, et puis en fait, quand je te dis, « Oh là là, t'es trop débile, ça veut dire que t'es tellement intelligente, en fait, c'est toi qui comprends pas ce que je veux dire, c'est toi qui comprends pas l'amour qui se cache derrière tout ça, tais-toi, en fait, Titouan. » Tais-toi, écoute juste ce que Marie a à te dire. Et juste, oh, ok, c'était pas mon intention et je suis désolé. Mais je m'excuse parce que j'ai entendu ce que tu as dit. Et je m'excuse parce que j'ai écouté ce que tu avais à me dire. Tu sors aussi ce qu'il y a à corriger dans ton attitude pour refléter le royaume de Dieu, être ambassadeur du royaume de Dieu. Lorsque tu écouteras les autres aussi, qu'est-ce que tu peux corriger? Comment tu peux t'améliorer? Quand est-ce que sans faire exprès, tu as été blessant? Respecte. Respecte la vie de la personne, écoute-la et agis pour qu'en fait ça fasse une différence, pour que tu ne blesses plus de cette façon-là. Et je dis ça et vraiment malheureusement, je vais dire un truc très honnête et c'est malheureux, mais je crois que pendant très longtemps, l'Église en a été des Titouans. Personne qui justifiait, non mais tu sais quoi, en fait, si tu comprends pas l'amour de Dieu dans cette sphère de ta vie, c'est parce que t'es pas assez proche de son cœur. Non mais tu sais quoi, en fait, si t'es en train de vivre ça qui est difficile dans ta vie, c'est parce que tu l'écoutes pas assez. Ah mais je pense en fait que ton problème de loyer, c'est pour que Dieu te dise en fait les richesses, il faut que tu les remettes à l'église, je sais rien, j'invente des trucs, mais écoute en fait le problème des autres. Si quelqu'un te dit « je me sens seul », dis-lui pas « Dieu est avec toi ». Même si c'est vrai, Dieu est avec elle. Mais dis-lui plutôt, comment est-ce que je peux me tenir avec toi? Personne ne te dit, purée, je ne peux plus sortir à cause du Covid. Je ne peux plus aller faire mes courses. Dis-lui, est-ce que moi, je peux les faire pour toi? Mais écoute la personne. Ne dis pas, tu ne peux plus manger, tu ne peux plus faire tes courses. C'est peut-être une bonne occasion pour jeûner. C'est peut-être vrai, mais la personne, elle est en train de te dire qu'elle a peur parce qu'elle ne sait pas comment elle va faire ses courses. Écoute la personne. Tu ne peux pas réconcilier Dieu et le monde si tu ne commences pas par respecter et écouter les personnes. Et il y a bien assez de besoins dans notre société actuelle pour se dire « Ok, je peux répondre à des besoins, je peux aider d'une telle et telle façon. » Mais pour avoir le ministère de la réconciliation, il faut savoir en fait comment est-ce qu'on va réconcilier. Quels sont les besoins pour une réconciliation? Et je reviens sur ce que j'ai dit avant avec le fait d'être ambassadeur, c'est nous qui reflétons Dieu. En fait, à la limite, il faudrait que les gens se disent « En fait, Dieu m'aide parce que toi, tu m'aides. » C'était mes deux points sur le ministère de la réconciliation. Et j'arrive gentiment à la fin de ma prédication avec ce dernier point qui va clôturer, terminer, je ne sais plus comment on dit, mais qui va terminer cette prédication. Et j'ai appelé ce point « Cultiver la présence de Dieu afin de l'incarner. » C'est le point que je préfère parce que on l'entend beaucoup, cultive ta relation avec Dieu, va le chercher pour le refléter, il faut plus de lui dans ta vie. Et je crois qu'il faut encore le redire. Parce qu'il n'y a pas plus important que de cultiver ta relation avec Dieu. Je crois que toute chose doit commencer à genoux, dans la prière, dans la présence de Dieu. Mais je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour expliquer le pourquoi du comment, je vais juste illustrer en fait avec une petite leçon d'objet, si je peux dire ça comme ça. Je vais vous, juste ici, j'espère qu'on va le voir à la caméra, hein, j'ai une valise. Yes, valise Billabong qui me suit à tous mes voyages. Dans cette valise, il y a des choses qui me concernent, qui sont à moi et qui me définissent. Ma valise sera juste posée ici, je vous assure que tout sort de ma valise. Je vais vous montrer juste mes quelques affaires. Et pendant que je vous montre mes affaires, dites-vous, ok, qui est Raphaël? C'est ça, c'est juste ça. Premier truc. J'arrive pas à croire que je suis en train de faire ça. Ok. Un maillot de foot. Du FC Barcelone. J'espère que j'ai pris le bon. C'est le bon. Deuxième truc. Un deuxième maillot du FC Barcelone. Allez, on y va pour un troisième. J'en ai une quinzaine de maillots de foot du FC Barcelone, si jamais, pour ceux qui se posent la question. J'ai aussi une écharpe FC Barcelone, pour ceux qui ne savent pas. J'ai un maillot de bain. J'ai un maillot de bain FC Barcelone. Posez-vous la question, Raphaël, c'est qui? Et il est terminé. Bon, il fallait qu'il soit dans le mauvais sens. Hein. Bon, je vais le montrer comme ça, ça va le faire. Ceci est une housse de drap du FC Barcelone. Ok, bon, je mets tout ça par terre, c'est pas très grave. Je vous ai dit, j'ai encore plein d'autres maillots. J'ai des figurines de joueurs de foot. J'ai sur mon porte-clé pour ouvrir juste ma maison. J'ai aussi le logo du FC Barcelone qui est mon porte-clé. Et on est d'accord que si je vous pose deux questions maintenant sur moi, c'est quoi mon sport favori? Je pense que 90% des personnes pourraient se dire c'est le foot. Parce que tout ça, c'est du foot. Et je pense que même si je vais un peu plus loin puis que je dis selon vous, c'est quoi mon club préféré? Quelle est mon équipe préférée de foot? Je pense que beaucoup ont deviné et beaucoup de personnes arriveraient à dire ça doit être le FC Barcelone. Je pense pas qu'il a toutes ses affaires pour rien. Et dans mon entourage, ma famille, mes amis les plus proches, tout le monde sait, tout le monde connaît mon amour pour le foot et pour ce club en particulier. Parce que je l'ai incarné au bout d'un moment, en achetant 10 maillots, 15 maillots, en prenant une écharpe que de temps en temps je mets aussi aux fêtes de Noël. Ça arrive de temps en temps, en parlant du FC Barcelone, en regardant des matchs, en montrant les photos de quand j'étais au stade et à quel point j'étais ému quand j'étais dans le stade et tout ça. Les gens, pour les gens, c'est clair. La personne a cultivé sa passion. On le remarque tout de suite par qui il est, par ce qu'il a comme habit, quand on va à l'entraînement de foot, quand on va à la salle de gym pour faire juste du sport, il a toujours un maillot du FC Barcelone. Ok, on sait ce qu'il aime. Il a cultivé sa passion. Les gens savent très bien quoi m'acheter à Noël ou pour mon anniversaire. Ils m'achètent quelque chose en lien avec le foot ou FC Barcelone et tu sais que tu vas me faire plaisir. Parce que naturellement, j'ai cultivé ma passion. Et j'ai envie de dire, il faut qu'on cultive Dieu comme notre passion. Faut qu'on cultive notre présence de Dieu comme notre passion. Et à force, je suis convaincu, pour les gens, ça va être une évidence. T'agis comme ça, tu fais ça dans la vie parce que t'aimes Dieu. Mais pour ça, tu dois le cultiver. Pour ça, tu dois cultiver sa présence, pour que ça devienne naturel. Et souvent, on s'arrête juste à se dire, ouais, mais j'ai déjà lu ma Bible la semaine passée, c'est tout bon, j'ai déjà pris un temps de louange, j'ai été à l'église. C'est pas ça, cultiver la relation avec Dieu. Ça ne s'arrête pas à ça, cultiver la présence de Dieu dans notre vie. Pose-toi juste la question, en fait. Si là, aujourd'hui, je rencontrais quelqu'un, pas chrétien, que je parlais 5 minutes, comment il me définirait? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire à chaque personne « Crois en Dieu, Dieu est trop bon » et tout ça. Je ne dis pas qu'il faut évangéliser, mais c'est quoi tes valeurs? Pourquoi tu fais ces valeurs-là? Pourquoi tu as ces valeurs-là? Pourquoi tu incarnes ces valeurs-là? Je crois qu'on doit cultiver la présence de Dieu afin de l'incarner. Si tu veux être ambassadeur du royaume de Dieu, cultive sa présence. Je vais terminer juste en disant ça. Tu ne peux pas incarner quelqu'un que tu ne connais pas. Si je te demande d'incarner là mon arrière-petit-cousin, je ne suis pas sûr que tu sauras comment faire. Si je te demande d'incarner Dieu, tu peux le faire. Tu peux le connecter avec lui, tu peux le découvrir, tu peux découvrir qui il est. Mais pour ça, ça coûte des temps avec lui. Mais c'est des temps, des sacrifices, si on peut dire ça comme ça, qui en vaut la peine. C'est cool, quoi. Luther, le père de la Réforme, il a dit cette phrase qui est assez incroyable, je vais le citer. « J'ai tellement de choses à faire que je dois passer 3 heures dans la prière avant de commencer. » Souvent, on a cette excuse quand même. Ah, « J'ai tellement de choses à faire, je vais mettre Dieu un peu de côté parce que voilà, c'est compliqué, mais je suis sûr qu'il est avec moi. » Luther, le père de la Réforme, a dit « Je dois d'abord prendre 3 heures du temps avec Dieu avant de pouvoir commencer à faire quelque chose. » Et je crois qu'on doit apprendre aussi à faire ça. Mais tu sais quoi, si tu ne me crois pas, moi, avec ma passion du foot, si tu ne crois pas Luther, crois en Jésus. Jésus, ce qu'il a fait après s'être fait baptiser, on peut se dire « Ouais, il a été enseigné, oh, purée, il devait être incroyable, il a peut-être prêché, il a peut-être guéri, il a peut-être fait des miracles. » Il a pris 40 jours dans le désert, seul avec Dieu. Seul avec son père. Et il a jeûné. Lui, qui avait quand même un agenda assez chargé, qui avait beaucoup de choses à faire, qui devait accomplir beaucoup de choses, il a d'abord commencé par prendre 40 jours dans la prière. Cultive ta relation avec Dieu. Pour résumer, du coup, une minorité créative qui s'engage dans la société, d'abord, on doit incarner Dieu en étant ses ambassadeurs. Et on doit se rendre compte de ça. Et en tant qu'ambassadeur, on doit s'engager dans des sphères de la société, éducation, études, sport, etc. Ensuite, on doit prendre conscience de ce que c'est que le ministère de la réconciliation. Et pour ça, redéfinir Dieu, connaître Dieu. Comment est-ce que tu définis Dieu ? Et troisième point, cultive sa présence, parce que tu ne peux pas incarner quelqu'un que tu ne connais pas. Et tu sais quoi, tu ne connaîtras jamais assez Dieu parce qu'il est infiniment grand. Et tout ça te permettra pleinement d'être son ambassadeur là où tu vas. Et pour ceux qui se disent « Ouais, c'est super compliqué, mais Raph, c'est quoi cette mission, mais t'es un malade et tout ça ?» Je dirais en fait, c'est pour ça que t'es pas seul. C'est pour ça qu'il y a une communauté, qu'il y a une famille, que Dieu nous demande de prendre soin les uns des autres. C'est parce que c'est difficile, mais t'es pas seul dans ce combat-là. Alors, je vais terminer juste en priant et voilà, tout simplement, je vais prier. Si ça vous a marqué, s'il y a des choses qui vous parlent, n'hésitez pas, ceux qui ont mon numéro de téléphone, écrivez-moi des messages. Ceux qui se posent des questions, allez chercher les réponses dans la présence de Dieu. Seigneur, je te remets la suite de la semaine de chacun, le début de semaine de chacun. Que toute personne qui a été peut-être impactée par une parole ou une autre de cette prédication puisse se dire « Ok, je vais être l'ambassadeur de Dieu maintenant, là où je vais ». Seigneur, je crois que l'Église, c'est une plateforme d'envoi. Je crois que l'Église, c'est une plateforme de réconciliation. Qu'on envoie des gens dans la société pour que les gens puissent se réconcilier avec toi. Alors Seigneur, équipe chaque personne qui œuvre pour toi, pour ton royaume, dans notre société. Qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent vus, qu'ils se sentent équipés à faire une différence là où ils vont. Seigneur, merci pour chaque personne. Bénis chaque personne et bénis notre semaine et toutes les personnes qu'on va rencontrer. Dans le nom de Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.romelausanne.ch.